Cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, le 30 mai 95.
Nous avons commencé à réfléchir philosophiquement sur le problème de l'indublétible. Alors, il y a cette petite question. Vous avez fait allusion lors du dernier cours à la définition qu'Aristote donne de la connaissance scientifique dans les seconds analytiques. Disons que le propre d'une connaissance scientifique est de découvrir les propriétés de ce qui est. Cette définition regarde-t-elle uniquement la science philosophique ou faut-il une définition plus large pour rendre compte en même temps de ce qui est les sciences modernes. Vous comprenez? Les seconds analytiques d'Aristote, ceux qui ont beaucoup de courage, qui les lisent, il faut l'avoir lu au moins une fois dans sa vie. Aristote est quand même le père de la logique. Face à Platon, c'est par là qu'il découvre ce qu'est l'être de raison. c'est la confusion. C'était tout à fait l'Étienne Gilson. Et c'est vrai, c'est très vrai ça. Il y a beaucoup de distinctions que les Grecs faisaient et que les Latins font. Alors comme le français dépend du latin et du grec, ce qui est en tant qu'être. qu'il n'y a rien ajouté. Absolument rien. Comme il a repris la métaphysique d'Aristote, il n'y a rien ajouté. Vous voyez. Mais il a fait une théologie. Et alors cette théologie va beaucoup plus loin, forcément, que la métaphysique d'Aristote. C'est l'étage supérieur. Mais c'est fondé intellectuellement sur la philosophie première. Et c'est ce Karl Rahner, donc théologien du Concile, un de ceux qui ont eu le plus d'influence sur le Concile. Karl Rahner dit que la théologie moderne remplace la métaphysique par l'anthropologie. Et c'est comme ça qu'il qualifie la théologie moderne. Et c'est très juste. Vous voyez ? À la place de la métaphysique, c'est l'anthropologie. Et ceci, vous voyez, alors c'est historiquement ce qui est intéressant. Le mot anthropologie vient de Kant. C'est le premier. Puisque Kant supprime la métaphysique et remplace par la. Et donc vous voyez que quand la théologie moderne, consciemment, remplace la métaphysique par la philosophie, remplace la philosophie première par l'anthropologie, sont-ils conscients ? Ils ne veulent pas être conscients, mais ça charrie quelque chose qui est conscient. Parce que l'anthropologie des théologiens modernes, de beaucoup de théologiens modernes, c'est une anthropologie qui remplace la métaphysique. Donc, qui est au fond très proche de Kant. On ne parle plus de la philosophie première, on ne parle plus que de l'homme. Là, vous voyez bien que si on ne parle plus que de l'homme, on regarde l'homme sous ses différents aspects. On le regarde en tant qu'artiste transformant le monde. On le regarde en tant qu'il est capable d'aimer un autre homme dans l'amour d'amitié. En tant qu'il peut coopérer. En tant qu'il a un corps. En tant qu'il est vivant. On ramène tout à l'anthropologie. Mais en tant qu'il est, on le dit encore, on le regarde en tant qu'il est, mais sous le point de vue du cogito, cogito ergo sum. Vous voyez ? Donc la métaphysique est attribuée au cogito. Je pense donc je suis. Alors est-ce que je suis est une propriété du cogito ? Voyez bien, cogito ergo sum. Donc j'attribue le je suis au cogito. Alors est-ce que le je suis est un attribut du cogito ou est-ce que c'est l'inverse ? Pour Aristote, je pense. Est attribut de ce qui est. Pour Descartes, ce qui est attribut du cogito. Vous voyez l'inversion. C'est ça, c'est très simple à saisir. Alors, pour Aristote, pour Thomas d'Aquin, la pensée scientifique réclame l'analyse. Et la découverte des causes propres qui se fait par l'induction. Et la conclusion scientifique se fait toujours en montrant comment telle propriété est attribuée à telle réalité en se servant du principe. Corrupteur. logique dès que je dis que Pierre est un homme. Puisqu'il est un homme, il implique un corps et une âme. Et par son corps, il est corruptible. Oui. Donc la corruptibilité est une propriété de l'homme. Prenez autrement ce qui serait très intéressant à faire. Pierre est mortel. Est-ce que la mort est une propriété de Pierre? Propriété au sens fort, c'est-à-dire un attribut nécessaire à Pierre. Est-ce que pour vous, il est nécessaire que vous mourrez? C'est ça qui définit votre qualité d'homme. Alors, si le Christ revient avant votre mort, vous ne mourrez pas. Là, est-ce que vous êtes encore un homme? Voyez, là, vous vous touchez. Comment? formelle à la cause efficiente, qui est l'application pour les sciences modernes. Mais c'est toujours le nécessaire. Alors qu'est-ce qui maintient l'unité au point de vue du point de vue de la réalité entre la science aristotélicienne et la science moderne? C'est la recherche de la nécessité. Mais en voyant tout de suite que la nécessité se fonde sur deux points de vue différents, puisque c'est une relation qui est nécessaire, elle se fonde sur l'analyse des causes propres et des principes propres, où elle se fonde sur le lien entre antécédents et conséquents. Savez-vous, essayez de le saisir pour que, quand on parle de science, toujours dire, est-ce que c'est science au sens aristotélicien ou est-ce que c'est science au niveau moderne? C'est ça qui est terrible, c'est le même mot. Mais la science aristotélicienne existait avant la science moderne. C'est la science moderne qui aurait dû employer une expression différente. Parce qu'autrement, on a pris un mot dont la signification était ceci. Et ça, cette signification est restée jusqu'au Moyen-Âge. Et on lui donne une autre signification. C'est ce qu'a très bien saisi Étienne Gilson quand il a vu dans Descartes le langage scolastique et la signification moderne. Oui. Et alors donc, il voit bien comment Descartes emploie un langage scolastique. Et cependant, il est ouvert au monde moderne. C'est très juste. Alors, les mots sont restés les mêmes et la signification est totalement différente. Tous les équivoques effrayants. C'est le commencement de la tour de Babel. C'est vrai, c'est ça qui fait que le dialogue est quelquefois si difficile entre philosophes, parce que tous les mots ont une autre signification. Alors, si on ne veut pas entrer dans autre chose, c'est équivoque. Tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est intéressant. Si vous l'avez, on l'a sûrement ici, le petit dictionnaire d'Étienne Gilson sur Descartes là-dessus. Parce que c'est tous les mots, les mêmes mots que le scolastique. Mais c'est la signification moderne. En ce sens-là, je peux vraiment dire que Descartes joue un rôle extrêmement intéressant et important, mais terrible. Parce que il y a une continuité au niveau des mots. Mais il y a quelque chose de tout à fait différent au niveau des significations. Prenez le mot substance. Le mot substance n'est plus principe selon la forme de ce qui est. Mais le mot substance est tout de suite substance pensante, substance physique, matérielle. Donc, le qui est ce qu'est la substance disparaît. Il n'y en a plus que le comment de la substance. Le comment de la substance pensante, le comment de la substance physique. Donc voyez donc la propriété, la recherche de la propriété, c'est toujours la recherche d'une attribution nécessaire. Et ça, aussi bien dans la science aristotélicienne que dans la science moderne. Mais le fondement de la nécessité n'est plus le même. Alors, il faudrait maintenant, après avoir vu brièvement ce petit topic au niveau grec, sur l'un multiple, ce que nous avons fait la dernière fois, très rapidement, vous pourriez, et ça vaudrait la peine, refaire toute la philosophie grecque avec cette interrogation: quel est le problème de l'un multiple dans toutes ces parties de la philosophie grecque? Et Rémaqueur, qui enseignait la philosophie à Louvain avant la division de Louvain neuve et Louvain antique, c'est-à-dire Louvain en langue flamande et Louvain en langue française, Rémaqueur était venu une fois à Fribourg faire philosophie contemporaine, toute la philosophie grecque. C'est intéressant à constater, ça. Alors, il dit, mais alors, oui, c'est le problème qu'on trouve rien. Et lui, pour lui, il fallait commencer l'étude de la philosophie première par le point de vue de l'indimultiple. Si je suis dans une perspective descriptive, c'est très vrai. Le problème de l'indimultiple, c'est ce qui fait, d'une certaine manière, l'unité. Ce qui est normal. Qui fait, d'une certaine manière, l'unité de toute la philosophie contemporaine et la philosophie grecque. Parce que ce problème se retrouve tout le temps, tout le temps, tout le temps, chez tous. Mais si je considère non plus le point de vue descriptif, mais le point de vue de la pensée et de la signification, je vois que le problème de l'un et du multiple est un problème second et non pas un problème premier. Or, ce qui m'intéresse, c'est de saisir toujours, au plan philosophique, ce qui est premier. Et je ne comprends pas ce qui est second si je ne saisis pas ce qui est premier. Et si je saisis le second comme ce qui est premier, je ne saisis plus rien du tout. C'est pour ça que c'est très intéressant le problème de l'indimultible, parce que c'est le partage des eaux. Ou vous restez dans la description, alors très bien, prenez l'indimultible comme le grand problème philosophique. Ou vous cherchez au contraire à comprendre et aller le plus loin possible dans la compréhension. Le problème de l'indimultible est second. Il m'intéresse que dans la mesure où j'ai découvert ce qui était ce qui est un, ce qui est un, et non pas là. Oui. Alors, à ce point de vue-là, c'est très juste de dire que c'est un problème capital, parce que l'un est multiple étant propriété. La propriété, c'est un accident. C'est donc visible, tandis que le principe n'est pas visible. C'est pour ça que je peux le manifester. C'est pour ça que je peux le décrire. Je peux toujours décrire l'un multiple. Parce que c'est la propriété. Donc, c'est quelque chose qui manifeste la cause, le principe. C'est ce qui manifeste les connexions nécessaires des lois. Donc, ce n'est pas premier. Et ce n'est pas ce qui me permet de comprendre, mais c'est ce qui me permet d'unifier. Et c'est très curieux dans le problème, faites la transposition dans le problème de l'œcuménisme. Vous avez les spécialistes de l'œcuménisme, et puis vous avez les théologiens. Les spécialistes de l'œcuménisme cherchent toujours ce qui est un et multiple. Ce qui est un et divise. C'est très bien. Mais ils ne cherchent pas pourquoi il y a cette unité, cette division. Le théologien cherche la cause. Pourquoi il y a ça? Comment se fait-il qu'il y a une séparation entre catholiques et protestants? Entre orthodoxes et catholiques? Je cherche pourquoi. L'autre, je le constate. Et je dis, mais c'est très bien. Cherchons la note dominante et l'unité fondamentale. Alors, vous avez l'œcuménisme qui cherche l'unité en supprimant les diversités. C'est ce que, en Suisse, on a essayé de faire quand on a voulu faire un seul catéchisme pour les protestants et les catholiques. Et puis vous avez ceux qui au contraire cherchent vraiment à comprendre pourquoi la division et qui maintiennent ce qui fait l'unité propre des catholiques à la différence de l'unité propre des protestants. Donc d'un côté, l'unité se fait par le point de vue générique et l'autre, l'unité se fait par qu'elle revient aujourd'hui. Mais alors, si on leur dit ça en face, ils ne veulent pas. Mais enfin, c'est exactement, vous n'avez qu'à regarder. Et ça, c'est très important pour nous. C'est pour ça que ce problème de l'aide multiple est capital pour la rectification de notre pensée. Parce qu'au terme, je vous le dis tout de suite, mais au terme, vous verrez qu'il y a deux espèces, unité. Il y a l'unité par le genre. C'est l'unité du fondement. Oui. C'est l'unité qui se fait par la cave. Vous avez des immeubles successifs qui sont construits. Et il y a un seul fondement. C'est l'unité générique. Enfin, un catéchisme unique. C'est vrai, c'est possible. Jusqu'où bien toute la diversité du catholique et la diversité du protestant, je laisse tomber et je pense qu'il est uni. Mais voyez le danger. C'est qu'à ce moment-là, on n'est ni catholique ni protestant. On est œcuménique. Et cette unité se fait par le fondement, c'est-à-dire en supprimant différentes. il y a quelque chose de juste. Il faut pas dire que c'est erroné. Non, il y a quelque chose de juste. Mais il faut ne pas être dupe. Tous, nous croyons dans le Christ. Tous, nous croyons dans le Créateur. Alors, faisons l'unité autour du Créateur, en face de l'athéisme. C'est normal pour le combat. Faisons l'unité autour du Christ pour tous les chrétiens. Et toutes les divergences, laissons-les tomber. Oui. Il y a quelque chose de juste, mais ce n'est pas suffisant, puisque cette unité fondamentale efface toutes les diversités, et donc efface la qualité. Et alors vous aboutissez au bout d'un certain temps à une conception purement générique des choses. Oui, alors ça, il faut essayer de le comprendre petit à petit. Comprendre ces deux manières. Et votre examen de conscience, hein, philosophique. Qu'est-ce qui est en vous? Qu'est-ce que c'est en vous? La recherche de l'unité au point de vue œcuménique, au point de vue fraternel. Qu'est-ce qui fait l'unité d'une communauté? Est-ce que c'est le langage? Est-ce que c'est ça l'unité d'une communauté? Ou est-ce que c'est la finalité? Ou est-ce que c'est l'esprit? Ce sont des aboiements différents, ça n'a pas d'importance. L'unité est finalité au-dessus. Pour l'autre, au contraire, c'est l'aboiement qui fait l'unité. Vous voyez, c'est très curieux, mais c'est extrêmement intéressant. Vous voyez, quand les gens querellent indéfiniment sur la question de la langue latine, ça, c'est ça qui fait l'unité. Mais non, c'est pas le latin qui fait l'unité. Mais c'est vrai qu'au point de vue liturgique, les combats ont été là-dessus. C'est vieux, entre latin et grec, entre latin et langue vulgaire, c'est toujours la même chose. Mais est-ce qu'on doit se battre là-dessus? Mais non, on ne se bat pas sur des choses secondaires. On se bat pour les choses principale et fondamentale et ultime. Oui, c'est pour ça que là, il y a un problème extrêmement intéressant au point de vue nous-mêmes, pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce qui fait l'unité de ma vie? Posez-vous de temps en temps la question. Qu'est-ce qui fait l'unité de votre vie? On passe du noviciat à la communauté des prophètes. Est-ce que l'unité change? C'est intéressant comme problème. Hein, l'unité d'un foyer chrétien, l'unité d'une communauté religieuse. Qu'est-ce qui fait cette unité? Mais il y a... Là, on commence à philosopher sur l'unité en disant ça. Alors, je reviens sur la topic. Nous avons essayé de voir très rapidement les deux grands courants grecs sur l'unité, parce que ceci demeure actuel. Il faudrait ensuite, je ne fais pas, regarder ce problème de l'un et du multiple chez les théologiens, chez les pères de l'Église. L'unité chez un saint Augustin et l'unité chez un Thomas d'Aquin n'est pas la même. C'est intéressant de voir ça. Elle est fondamentalement la même. C'est sûr, c'est la foi. Elle est, au point de vue de la finalité, la même. C'est pas seulement fondamentalement, mais au point de vue de la finalité. Pour saint Augustin, l'unité se fait dans la vérité. C'est la vérité qui nous unit. Et c'est en ce sens-là que la vérité nous libère de toutes les luttes. Parce qu'elle s'unifie. Donc, elle conduit à la paix. Et la vérité donne cela. Et puis, il y a la bonté. Vous voyez ? Alors, les deux sources d'unité, la vérité et la bonté, l'amour. C'est très vrai que l'amour fait l'unité. Mais l'amour fait l'unité différemment que la vérité. La recherche de la vérité fait une unité. charité extrêmement profonde au point de vue de l'intelligence. Et la charité fait une unité encore plus profonde entre ceux qui cherchent à vivre parfaitement du nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Mais au point de vue théologique, c'est très curieux de voir ces deux courants. C'est normal. C'est normal de voir ces deux. On verrait, voyez là, la différence entre l'unité pour Thomas d'Aquin, l'unité qui se fait par la théologie scientifique, et l'unité qui se fait par la théologie mystique. L'une se fait par le point de vue de la recherche de la vérité, l'autre se fait par la recherche de l'amour. Et de fait, dans une communauté, les deux sont impliqués l'un dans l'autre. Mais il y a des accents différents. Mais quelle est l'unité d'une communauté religieuse jésuite, une unité d'une communauté dominicaine à l'intérieur de l'Église, parce que tous les deux sont d'Église. C'est quand même intéressant de se poser la question comme ça, voyez, parce que là, vous touchez tout de suite le problème de vie, de l'unité. Alors, vous voyez ça chez les pères de l'Église, vous voyez ça chez les théologiens. Saint Thomas a recherché toute sa vie le point de vue de la vérité. Et pour lui, c'était la structure de l'unité de tous les chrétiens. Il dit qu'il n'y a plus de vérité dès que la vérité n'est plus atteinte avec autant de force. Immédiatement, la multiplicité s'empare. Cette multiplicité peut et même doit s'emparer. Parce que si on veut l'unité au-dessus de tout, on tombe dans l'uniformité. Alors, l'unité et l'uniformité n'est pas la même chose. L'uniformité, c'est qu'elle même uniforme. N'est-ce pas ? Alors, on a l'uniformité. Et l'unité par la forme, c'est une unité formelle, extérieure. Elle n'est ni fondamentale, ni finale. Troisième type d'unité, l'uniformité. On a tous la même casquette. C'est ce que vous voyez chez les fonctionnaires du chemin de fer. La casquette de celui qui surveille si vous êtes bien en ordre. L'uniforme des gendarmes et l'uniforme du religieux. L'uniforme du religieux n'est pas l'uniforme des gendarmes. Mais il y a des religieux qui sont gendarmes. Vous voyez tout de suite la diversité, l'uniformité ou l'unité. Et ça, c'est débattu chez les théologiens. Et c'est ça qui est très intéressant de regarder chez les théologiens, ce point de vue. L'unité par le fondement, l'unité par la fin, l'uniformité. Et puis il y a l'unité matérielle encore. Alors celle-là est très proche du fondement. Elle est plus spécifique que celle du fondement. Vous ferez tous les objets avec la même matière. Et cette unité à laquelle certains en tenaient beaucoup, c'est que les cuillères sont des cuillères en bois. Ça fait l'unité de la communauté. Que les bols soient tous les mêmes. Comme ça, il n'y a pas de jalousie. Alors ça, c'est l'unité par la matière, par encore autre chose. Mais au point de vue théologique, ça, je ne la vois pas beaucoup. Mais ça existe. Alors, il faut voir qu'à partir de Descartes, à partir d'une certaine manière de Occam, l'unité est C'est une idée logique. C'est la chute. Alors, dans Occam et dans Descartes, l'idée est une idée logique. Alors, c'est ça qui est très intéressant. J'avais commencé de vous le dire la dernière fois. C'est qu'en logique, l'unité, c'est la chose principale.
Connaît tout selon un mode universel. Et notre
notre langage humain selon ce mode universel. Nos mots sont un dans la multiplicité. C'est vrai. Tous les mots sont un à partir de la multiplicité, vers la multiplicité, dans la multiplicité. Alors, si le point de vue métaphysique s'identifie au point de vue logique, vous comprenez que le problème de l'un et du multiple, il est résolu. Puisque la logique fait l'unité de l'un et du multiple. Là, ça pose un petit problème aux philosophes. Comment se fait-il que la logique fait l'unité entre l'un et le multiple? Et l'universel, c'est le conditionnement de ma connaissance intellectuelle. Je connais tout sous un mode universel. Bergson, quand il a pris conscience de ça, il s'est réfugié dans l'intuition pour échapper à ce problème de l'un et du multiple. Parce que le problème de l'un et du multiple, vous comprenez, c'est que le « on » devient roi. Parce qu'on ne sait pas si c'est un ou si c'est multiple, c'est l'avantage de « on ». On dit ça. Avec qui ? On dit ça. Vous voyez ? Vous avez unifié la multiplicité dans l'anonymat. Le « on » qui est en horreur. Je suis un artiste. Il n'y a plus d'art. C'est la mayonnaise. Ou c'est la colle. Ça dépend. Il y a la colle au boyau. C'est on dit ça. Quand on vous dit ça comme ça, et qui ? Ah, on. Vous voulez savoir l'unité, la diversité distincte de l'unité. Non, on bloque. Et la logique fait ça. C'est un art extraordinaire. Vous avez ensuite, donc, à partir de Descartes, cette confusion. On peut dire que D, Occam, D, Descartes, la métaphysique est noyée dans le on. Et donc dans la confusion. Et vous revoyez ensuite, à travers ce « on » et cette philosophie qui confond l'être réel et l'être de raison, vous allez redécouvrir les deux tendances aristotéliciennes et néoplatoniciennes. Ça, c'est aussi très curieux. Et vous retrouvez aujourd'hui, parce que l'existentialisme a été une réaction violente contre la logique. C'est la réaction violente contre la logique pour retrouver l'individu qui seul existe. Le « on » n'existe pas que dans ma pensée. Ça, c'est sûr. Donc, c'est la victoire du multiple sur l'un. Parce que c'est la pensée qui unifie le multiple dans le on, dans l'anonymat. Alors, vous voyez, on pourrait faire toute cette topique, ce serait intéressant hein, de faire toute l'histoire de la pensée moderne dans la lumière de l'un et du multiple. Ce n'est pas notre propos, c'est intéressant, mais ce n'est pas ça qu'on veut faire. Je veux au contraire réfléchir avec vous sur ce qui